Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.
27 équipes désormais qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. Les barrages Europe et surtout les barrages Afrique ont livré leur verdict. Quant à l'équipe de France, elle s'est promenée en match amical. Il y aura des gens heureux et beaucoup d'amertume dans ce podcast de Parlons Sport. Soyez les bienvenus. Et dans l'équipe ce soir, c'est un des aides qui a besoin de se confier auprès de nous, Saïd Benchek. Salut Samy.
Salut Gilles, salut à tous.
Porte-parole des champions d'Afrique, elle pourra à nouveau vanter les exploits du Sénégal. C'est Julie Duterte. Salut Julie.
Salut Gilles, salut à tous.
Il sera au Mondial également avec ses aigles de Carthage. C'est Mehdi Frigy. Salut Mehdi.
Salut tout le monde.
Il est décidément indomptable, qualifié lui aussi pour la Coupe du Monde. Christian Youdje. Salut Christian.
Salut Gilles, salut à tout le monde.
Enfin, c'est un lion de l'Atlas qui est avec nous. C'est Momo. Salut Momo.
Salut tout le monde.
Parlons sport, joie et déception au programme. On approche sereinement de la Coupe du Monde. C'est parti. Et avant de revenir sur vos exploits respectifs, messieurs, dames, exploits ou non, je voudrais qu'on revienne rapidement sur les performances de l'équipe de France qui s'est imposée à domicile 5-0 contre l'Afrique du Sud et puis quelques jours plus tôt 2-1 contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer de ces matchs de préparation, messieurs, dames? Je sais, Samy, que tu as été assez attentif aux prestations, notamment collectives, de cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé?
En tout cas, ils ont tenu leur rang en gagnant les deux matchs là, contre les deux équipes africaines de ce mois de mars, deux matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Le retour de Giroud qui n'était pas attendu, finalement, je pense qu'encore une fois, Giroud va être le grand gagnant, puisqu'il est presque indispensable maintenant. En tout cas, il faut l'avoir dans un groupe.
Samy, il est indispensable pendant les matchs amicaux, pas forcément pendant les grands tournois.
Dans un groupe, je parle. Il n'est pas indispensable en tant que titulaire, mais dans un groupe, tu en as besoin. Tu ne peux pas savoir, tu peux tomber dans un match piège contre le Pérou ou un match piège contre l'Équateur, un truc comme ça. Et tu as Giroud qui rentre et qui va prendre un ballon de la tête, une déviation. Voilà, il a prouvé, il marquera à chaque fois en équipe de France, il va battre le record de Thierry Henry, il a sa place.
Samy, quand même, juste sur cette logique de groupe, moi je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un Giroud soit bénéfique au groupe équipe de France, et on sait que Didier Deschamps accorde beaucoup d'importance, notamment aux différents équilibres dans un groupe. Aujourd'hui, si Kylian Mbappé décide de ne plus s'entendre avec Olivier Giroud, je pense que c'est finito pour Giroud. Et on connaît les différends qu'il y a eu entre les deux dernier Euro.
Mais pourquoi Kylian? Oui, lors du dernier Euro, il s'est passé un épisode. Ce qui s'est passé, c'est fini. Maintenant, on va de l'avant. On est sur l'objectif Coupe du Monde. Et là, j'ai vu sur ces deux matchs, Giroud, il s'entendait bien avec n'importe qui lors du premier match. Et Mbappé, la connexion s'est bien faite, même si on connaît tous ici, autour de la table, les travers d'Olivier Giroud. Ça peut être un défenseur supplémentaire. Il n'a pas le même jeu en déviation, etc. Mais moi, je retiens avant tout, lors de ces deux matchs amicaux, le grand gagnant pour moi, c'est Giroud. Parce qu'il était barré comme l'ont été d'autres avant lui, sans qu'on lui donne d'explication, mais il y avait une certaine logique. Et puis maintenant, il revient sur le devant de la scène.
Fini, après Christian te contredira certainement.
Vas-y. Non, sur Giroud, j'ai terminé, mais maintenant, on peut revenir sur la globalité sur l'équipe de France. Le milieu, sur les milieux, Tchouaméni a lui aussi, je pense, gagné sa place dans le groupe. Maignan a fait un match solide et on entend de plus en plus parler des bruits de couloir. Pourquoi Loris est si indiscutable que ça? Pourquoi on ne donnerait pas sa chance à Mike Maignan? Il l'a prouvé, même s'il n'a pas eu beaucoup de travail à faire face à l'Afrique du Sud. Mais il a un jeu au pied qui est largement supérieur à celui de Loris. Maintenant, Loris est le capitaine, il ne sera pas facile de le sortir du 11. Et puis, donc, Tchouaméni au milieu. Et puis, en défense, je pense que Jonathan Clauss a définitivement mis de côté.
Dubois, ouais, bon, c'était pas compliqué en même temps. Christian, est-ce que tu es du même avis que Samy sur tout ce qu'il a développé?
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec Samy. Moi, je voulais réagir surtout sur Olivier Giroud. Enfin, Gilles, c'est difficile de dire que quelqu'un n'a pas sa place dans le groupe lorsqu'il a les états de service qu'a eu Olivier Giroud. Enfin, il faut se rappeler déjà que mentalement, je trouve que le bonhomme est très costaud. Alors, je ne suis pas dans le groupe, mais de l'extérieur, ce qu'on peut voir la plupart du temps, il a toujours le bon état d'esprit, qu'il soit titulaire, qu'il soit remplaçant. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas lui ôter le fait que malgré toutes les limites qu'on peut lui trouver sur le plan footballistique, à chaque fois que Didier Deschamps a eu à faire appel à lui, bah, il a souvent répondu présent.
Alors Chris, moi je suis d'accord avec toi, Christian, mais en fait, moi, mon petit tacle, c'était surtout un tacle indirect envers Mbappé, qui, disons-le, il a un droit de vie ou de mort sportive en équipe de France sur Olivier Giroud, selon moi.
Après, c'est le rôle de Deschamps maintenant de composer avec tout le monde et de faire en sorte que même si les joueurs peuvent avoir des différends, quels qu'ils soient. Bon, moi, à mon sens, l'épisode de l'Euro, je pense que c'est quelque chose de primaire. C'est juste que, voilà, ça s'est retrouvé dans la presse, alors on en a fait des tonnes. Mais je ne suis pas persuadé que ça nuise particulièrement au collectif. Et je pense que Giroud aurait sa place dans cette équipe sous le blanc des remplaçants et pour apporter sa qualité lorsqu'il rentre en cours de jeu ou être une autre option pour Deschamps. Je pense qu'il l'a gagné, qu'il le mérite.
Mehdi, est-ce que tu es du même avis que Christian et Samy sur Giroud qui a peut-être validé son billet pour le groupe au Qatar et sur ce que disait Samy aussi sur les nouveaux là qu'on commence à avoir dans cette sélection, Tchouaméni, piston droit, Jonathan Clauss.
Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un vent frais là qui arrive en équipe de France et il faut surfer là-dessus. On a des joueurs avec qui on a noué un certain attachement. On a été champion du monde avec eux, mais mine de rien, c'est important de penser au renouvellement. Et des mecs comme Clauss ou Tchouaméni, je pense que c'est bon. Clauss est quand même pas non plus tout jeune, mais malgré tout, je pense que c'est pas mal d'avoir ce vent frais, surtout quand il y a une compétition qui arrive. Après, pour revenir sur les apprentissages de ces deux matchs là, de cette trêve internationale, je pense qu'effectivement les deux garçons qu'on retient, enfin pour moi honnêtement, faut pas non plus oublier Mbappé qui fait encore hier un match fou un peu tourné vers l'individualisme aussi, ça peut être une dérive, ça faudra qu'on en parle aussi. Enfin, tout le monde le connaît, ce penchant-là. Mais au-delà de ça, bon, bah, faut maintenant qu'on soit tous d'accord sur le fait que on a un crack dans notre pays et faut qu'on soit tous contents de ça. Mais après, je trouve que Giroud, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christian et ce que dit Samy. C'est que aujourd'hui, c'est indéniable. Sportivement, ce mec-là, on peut pas s'en passer. C'est un super sub. Et on sait qu'il est, il a la capacité. En fait, faut qu'il y ait une sorte de pacte moral. Il sait qu'il est plus sur les premiers rôles. Mais il faut qu'il y ait un pacte moral, il est assez intelligent pour le comprendre, que bah, c'est Mbappé et Benzema qui seront titulaires, mais qu'il a un rôle de super sub. Et du coup, je pense que Deschamps peut arriver, on sait qu'il attache de l'importance à la cohésion de groupe, mais je pense qu'avec un mec comme Giroud, il peut y avoir une sorte de pacte où voilà, on lui fait comprendre qu'il ferme sa bouche et qu'il ne mette pas trop en avant son ego. Il peut aller à la Coupe du Monde avec un peu de chance, péter le record de Thierry Henry, et tout le monde sera d'accord. Je pense que le compromis peut être accessible, sachant que Giroud a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez intelligent et au prix d'une... il va pas faire un caprice et se priver d'une Coupe du Monde. Donc je pense qu'il va fermer sa bouche et accepter tout ce qu'on lui demande, mais il y sera et c'est important pour l'équipe de France, je pense.
Pour fermer cette page équipe de France, comme avant l'Euro, on a Mbappé qui en surforme. Puis dans un match face à un adversaire faible, c'est vrai qu'il a sa dérive, il va jouer en solo, mais bon, ça a été tellement exceptionnel que est-ce qu'on peut lui en vouloir vraiment ? Il faut juste sonner la sonnette d'alarme. Attention au cas où, mais je pense qu'il est assez grand pour faire la différence. Et puis voilà, revenir sur... Il y a même Saliba qui a fait un bon match. Enfin, les nouveaux sont bien intégrés. On a l'impression que cette équipe, elle arrive à se renouveler facilement et elle sera très difficile à battre. Encore une fois, je pense que le seul adversaire de l'équipe de France, là, maintenant, à plus de 6 mois, 8 mois de la Coupe du Monde, c'est l'équipe de France.
Parlons des matchs qui comptent maintenant, messieurs, dames, et on va s'attarder surtout sur les barrages Afrique, parce qu'on a eu des matchs très mouvementés. Il n'y a pas eu de surprise, hormis l'élimination de l'Italie sur les qualifs Europe. Mais on va donc surtout s'attarder sur ces matchs de la zone Afrique. Et on va commencer par la Tunisie qui a validé son billet pour la Coupe du Monde au détriment du Mali. Victoire 1-0 à l'aller, match nul 0-0 au retour. Mehdi, quand on regarde la Coupe d'Afrique des Nations, le parcours de la Tunisie, puis la manière dont elle s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que les Aigles de Carthage n'ont peut-être pas les armes pour aller très loin lors de cette prochaine compétition.
Ouais, merci. Du coup, on ne va pas se mentir. Hein. C'est la Tunisie vers le Qatar et c'est top. C'est la 6e participation à la Coupe du Monde pour le pays. Et voilà, on sait ce que ça représente et la caisse de résonance. Donc, c'est super. Après, honnêtement, le match aller-retour contre le Mali, ça a été très poussif.
Est-ce qu'on pourrait même parler de hold-up, Mehdi, franchement ? Parce que sur les deux matchs... Vous gagnez 1-0 avec un but contre son camp, vous n'avez pas la possession, vous avez moins d'occasions que le Mali, qui est franchement une bonne équipe. Moi, ça ne me rassure pas pour la Coupe du Monde.
Je ne suis pas rassuré non plus, je te rassure. Mais non, hold-up, je ne sais pas. Mais en tout cas, match très, très moyen. Et pour répondre à ta question sur les armes pour faire quelque chose en Coupe du Monde, honnêtement... Ça serait un peu ambitieux et pas très objectif de ma part si je te disais qu'on vise une sortie des poules ou quelque chose comme ça. Non, la Tunisie, un peu dans la lignée de sa Coupe d'Afrique, a quelques joueurs de talent en devenir. Il y a un bon milieu de terrain. Peut-être qu'on entendra parler l'Aïdouni qui joue à Ferencváros, qui a été le meilleur joueur du championnat de Hongrie. Il y a des jeunes joueurs, mais il n'y a rien de par rapport à d'autres pays, d'autres voisins du Maghreb. Il n'y a pas de grosses individualités. C'est un peu ce qui fait aussi la marque de fabrique de la Tunisie. Mais bon, je préfère pas m'enflammer, honnêtement, venir au Qatar, et ça c'est cool, mais faut pas s'attendre à ce que la Tunisie se révèle comme un gros outsider potentiel de cette compétition. On va savourer, on va être content d'y aller, mais derrière ça, bon, en tout cas le barrage a montré quelque chose de très très poussif. De l'envie il y en a, mais après d'un point de vue projet de jeu, il y a pas honnêtement pas grand chose, donc bon, on va rester modeste.
Ouais, tu parlais, Mehdi, du milieu de terrain et notamment de la prochaine génération qui promet en ouais. Tunisie. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir des jeunes qui ont été intégrés assez rapidement dans le groupe et qui ont disputé des matchs comme titulaires à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense notamment à Nibal Mejbri, qui est un joueur de Manchester United qui ne joue pas ou qui joue avec les équipes de jeunes. Corrige-moi si je me trompe. Il n'a pas eu de titularisation en Première Ligue. On ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Et pourtant, il est dans le groupe.
Il est dans le groupe. Hier, il n'était pas titulaire. Il rentre vraiment en fin de match. Après, les journalistes locaux lui ont un peu tombé dessus. Et c'est vrai, pendant la Coupe d'Afrique, il a été mis titulaire sur les deux premiers matchs. Et honnêtement, ce n'était pas du tout ça. Je pense qu'il voilà, ne faut pas non plus trop... brûler les ailes à ce genre de joueur-là. Il y a sûrement un potentiel. À Manchester, je pense que c'est une des meilleures écoles pour apprendre à jouer au foot, notamment sur des aspects aussi sur le foot anglais où ça peut l'endurcir. Et on a besoin de ça aussi, en Tunisie, d'avoir aussi un peu de physique. Il y a une stratégie de mettre en avant les jeunes. Après, c'est peut-être un peu trop tôt pour certains. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Mais voilà, hier, il n'était pas titulaire et je pense que on a peut-être compris qu'on ne pouvait pas tout, enfin, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et mettre trop de jeunes joueurs trop rapidement. Donc hier, il y avait quand même une base, un joueur assez mature avec une moyenne d'âge de 26-27 ans. Mais voilà, il y a un jeune réservoir qui pointera sûrement le bout de son nez peut-être à la Coupe du Monde, mais surtout, je pense, pour la génération après la Coupe du Monde Qatar.
Moi, j'avais plus une question. En fait, Tunisie, quand même, reste sur des bons résultats. C'est vrai qu'il se qualifie et c'est peut-être une boutade en off en disant qu'ils n'ont pas vraiment marqué de but. Enfin, ils n'ont pas marqué de but, c'est un but contre son camp sur les deux matchs, mais ça reste l'équipe qui est, de tous les matchs éliminatoires que j'ai vus dans la zone Afrique, qui est la plus solide défensivement. Très, très difficile pour se créer une occasion face à la Tunisie. C'était surtout des frappes de loin de la part du Mali. Par contre, je trouvais qu'elle jouait mieux avec le sélectionneur précédent. Et donc, c'était ça que je voulais poser comme question à Mehdi, pourquoi avoir viré le sélectionneur qui avait de bons résultats en sachant que tu tu vas aller à la Coupe du Monde au Qatar et que lui avait déjà fait une compétition avec l'équipe A' au Qatar. Donc, j'ai pas compris cette décision, en fait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'étais assez surpris. Je pense que l'élimination, une fois que tu sors le Nigeria, après tomber direct, enfin, on se voyait tous déjà en demi-finale. Tomber en quart de finale, il y a eu, je pense, une sorte de déception. Et derrière, bon, il y a dû avoir, on connaît les fédérations africaines, hein, il y a dû avoir des discussions et bon, bah, des points de désaccord. Donc j'étais assez surpris de cette décision de changer, surtout à quelques mois d'une grosse échéance qu'est la Coupe du Monde. Donc c'est sûr que c'est pas de meilleur augure pour se dire qu'on a un collectif stable avec un projet de jeu déjà rodé. On repart un petit peu de zéro. Mais ouais, c'est pas, on est d'accord, ça, c'est pas les meilleurs. On ne sera pas dans les meilleures conditions et je pense que les barrages en témoignent. Hein, c'est très flou. Hein. Hier, je commentais le match avec des amis et honnêtement, la première mi-temps, c'est effectivement le néant. Il n'y a pas grand-chose. Quoi. Ça joue limite. On attendait effectivement à ce que le Mali marque pour qu'il se réveille. Donc il n'y a pas de fond de jeu et le fait d'avoir un nouveau coach n'arrange en rien. Donc ça, je vous le dis franchement, faut pas non plus être trop optimiste pour la Coupe du Monde.
Ouais, mais comme voilà, tu l'as dit, hein, fallait y être.
Il faut y être. On va s'en contenter. C'est déjà pas mal. Hein.
Bon, voyons voir si notre équipe du Maghreb a davantage d'armes pour lutter lors de cette prochaine Coupe du Monde. Je passe la main directement, Momo, pour le Maroc qualifié qui n'a pas tremblé après son match nul un partout en RDC et qui s'est largement imposé 4-1 au stade Mohamed V. Alors, Momo, on avait fait tout un pataquès sur l'absence de Ziyech, y compris dans cette émission Parlons Sport. L'équipe du Maroc a-t-elle vraiment besoin de lui quand on regarde quand même le beau parcours du Maroc lors de la CAN et puis de cette prestation convaincante contre la RDC?
Oui, moi je trouve que quand même le match retour était assez convaincant. Le match aller assez poussif. On n'a pas vraiment eu, on va dire, une équipe qui a montré quoi que ce soit au match aller. Mais le match retour à domicile dans un stade qui était plein, justement, c'était un retour du Covid, je veux dire, des supporters à Casablanca. Ça faisait tellement longtemps que l'équipe du Maroc avait joué dans ce stade-là. Franchement, un public en folie. C'était vraiment impressionnant de voir les gens, le monde qui poussait vraiment les joueurs. Les supporters, on était assez confiants pour ce match-là et ils l'ont prouvé. Ils ont vraiment fait un bon match, ils étaient très offensifs. Après, il faut dire que c'est vrai qu'en face, le Congo a posé quelques problèmes, mais ce n'était pas forcément une équipe très, très, on va dire, solide au niveau africain. Déjà qu'ils se sont retrouvés là pour les barrages, c'était assez pas mal. Mais on a répondu présent, on a prouvé, on a montré de l'efficacité offensive. C'était ce qui, justement, manquait au Maroc, notamment pendant la Coupe d'Afrique, avec des attaquants en plus qui ne sont pas forcément communs, c'est-à-dire on n'avait pas par exemple En-Nesyri, on n'avait pas Boufal qui était titulaire et qui ont joué le match, donc du coup ça prouve aussi de la diversité au niveau offensif, avec Ounani, des jeunes qui se révèlent, ça c'est super pour l'équipe, et en même temps on a voilà, les anciens, les bases qui confirment Hakimi, encore une fois, je l'avais déjà pas mal encensé pendant la Coupe d'Afrique et encore une fois, il prouve de sa solidité, régularité en équipe nationale. Une très bonne défense menée par justement Romain Saïs, un capitaine aussi vraiment exemplaire. Voilà, donc vraiment rassuré, on y va avec beaucoup de confiance, on a marqué des buts. Maintenant, de là à dire qu'on va faire quelque chose en Coupe du Monde, ça va dépendre encore une fois dans le groupe dans lequel on va tomber et puis des équipes qu'on va rencontrer. Mais voilà, on confirme une deuxième Coupe du Monde d'affilée après celle en Russie, donc au Qatar. Je pense qu'il y aura possibilité de gagner peut-être un ou deux matchs. Et si on sort du groupe, vraiment, vraiment, on sera vraiment chanceux de sortir du groupe. Mais assez confiant. Et aussi, ça fait vraiment du bien cette victoire à Coach Vahid. Coach Vahid qui était un peu sous les projecteurs après cette Coupe d'Afrique un peu irrégulière. notamment sur le cas Ziyech, on ne va pas revenir dessus, ou Mazraoui, qui est aussi dans le même lot, Mazraoui qui est un très bon arrière-droit à l'Ajax. Mais au final, au final, un très très bon match. Le seul petit bémol était la blessure assez spectaculaire, pas trop grave, mais assez spectaculaire de Bono, voilà, notre gardien qui s'est blessé, qui a dû quitter le match. Mais bon, c'était plutôt la fête ce soir-là. C'était plutôt la fête, le plaisir de retrouver l'équipe national à Casablanca, et voilà, tout le monde a fait la fête dans les rues, et puis le stade était en feu, donc assez satisfait.
Ouais, très satisfait même, ça s'entend, Momo. Ça avait été une question, non, sur le Maroc ?
Non, enfin, je voulais juste revenir sur leur qualification en disant que c'était l'équipe qui a fait la meilleure impression dans la zone Afrique. Ils ont tenu leur rang sur ce deuxième match, avec une équipe qui me semble être une équipe B, au fait, c'est ça que je voulais voir avec Momo. Surtout l'attaque, au fait. L'attaque, ils ont très peu de sélection et pourtant ils répondent présents. Alors que, justement, pendant de nombreuses années, ce qui était décrit, c'était plutôt la partie mentale de la façon d'aborder ces matchs. Et là, tu arrives avec des jeunes qui sont frais physiquement, frais mentalement, et puis qui se posent aucune question. Et face à une équipe de la RDC qui avait quand même posé plus que des problèmes au match aller. Mais là, ils ont été quasiment inexistants, mis à part le but qui est assez spectaculaire de leur attaquant. Mais ils ont été inexistants. C'est pour moi l'équipe la plus convaincante, qui a le plus de chances de faire quelque chose lors de la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, ils seront dans le chapeau 3, donc quoi qu'il arrive, ça leur permet de rencontrer une équipe du chapeau 4 qui sera peut-être vraiment moins importante qu'en 2018 où le Maroc n'a pas eu de chance et a rencontré à la fois l'Espagne et le Portugal. Là, je pense qu'il y a moins de chances que ce cas de figure arrive. Après, voilà. on n'est pas encore à la Coupe du Monde, mais ce sera une configuration totalement différente. En hiver, au Qatar, ça peut rappeler des configurations telles que la Coupe du Monde 2002 où les grosses équipes peuvent faire des faux pas.
Non, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. C'est vrai, j'ai oublié de parler de ce but fantastique congolais. J'ai carrément zappé alors qu'il était magnifique. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu anecdotique sur cette deuxième rencontre. Au match aller, ils étaient beaucoup plus durs, c'est vrai, beaucoup plus solides. Une équipe marocaine un peu aussi surprise, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à avoir Boufal, Enesiri titulaire. Mais voilà, c'est coach Vahid, il arrive toujours avec des idées et des formations assez originales. Et au final, ça a marché. C'est vrai que c'est des jeunes qui étaient dans le groupe depuis quelques matchs déjà, même s'ils n'ont pas beaucoup joué. Mais certains qui ont prouvé dans leur championnat, notamment Dani en France ou d'autres dans d'autres championnats. On a joué en fait ce deuxième match. C'était vraiment, c'était ce que j'avais ressenti, c'était cette confiance en fait que le peuple a apporté dans le stade et vraiment, je pense, les attentes aussi de tout le pays a fait que l'équipe a joué haut, a vraiment pressé les Congolais et je pense que au niveau technique et au niveau de leur on va dire leur fond de jeu, ils n'étaient pas assez, on va dire, bons techniquement pour éviter le pressing. Et donc le pressing marocain, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dès le début, vraiment les attaquants qui couraient beaucoup pour mettre la pression sur les défenseurs, et il y a eu 2-3 grosses erreurs justement congolaises à cause de ça. Et c'était une équipe congolaise qui vraiment se basait sur des contre-attaques éclairs et une attaque de feu, c'est-à-dire une attaque assez rapide qu'on connaît aussi pas mal en France. Mais voilà, le reste de l'équipe avec un bon pressing marocain, un milieu de terrain assez solide aussi avec Amrabat qui a cette expérience italienne sachant gérer un milieu de terrain et une défense assez solide, on a pu faire les efforts et on verra pour la Coupe du Monde comment ça se passera.
C'est prometteur en tout cas, Momo. Mais quand même, bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. On espère quand même une phase de réconciliation entre le coach Vahid et puis Hakim Ziyech. Quand même, ce serait vraiment dommage d'être au Qatar, Coupe du Monde, le Maroc sans son maestro. Bon, ce serait dommage, mais il y aura certainement d'autres péripéties d'ici là. Place au Sénégal maintenant. Le Sénégal qui nous a produit un remake contre l'Égypte, un remake de la récente finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, confrontation aller-retour particulière. 1-0 Égypte match aller, but contre son camp. 1-0 Sénégal match retour, but contre son camp. Ça se termine sur une séance de tirs au but où les quatre premiers tireurs ne voulaient pas marquer. Et finalement, le Sénégal qualifié dans la douleur sur un but de Sadio Mané encore donc, lors de la séance des tirs au but. Mais il faut le dire, le Sénégal qui confirme son statut d'équipe et leader maintenant du continent africain. Julie, est-ce de bon augure pour cette prochaine Coupe du Monde ?
Oui, tu as résumé l'ensemble des deux matchs. En réalité, c'est vrai que c'était assez étrange d'ailleurs de voir à quel point l'Égypte et le Sénégal, j'ai l'impression qu'ils pourraient jouer 8 jours, qu'il ne se passerait pas grand-chose en fait, même si le match à Dakar, il y a eu beaucoup plus d'occasions quand même du Sénégal et ils ont montré des qualités offensives en manquant de concrétisation, mais ils ont quand même montré beaucoup plus de choses que le premier match qui était un peu ennuyeux et qui ressemblait vraiment au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'état d'esprit des joueurs à la finale de la CAN. Donc voilà, après je pense que ça reste mérité sur l'ensemble des deux matchs, ça reste mérité sur la complémentarité de tous les joueurs. Je crois qu'aujourd'hui on a la meilleure génération des joueurs sénégalais. L'année 2022, c'est vraiment leur année. Ils peuvent marquer l'histoire encore plus que la génération 2002, déjà parce qu'ils ont été champions d'Afrique. C'était pas facile quand même, je pense, de gagner contre l'Égypte, sachant justement qu'ils avaient été gagnants de la CAN 2 mois avant. Donc, il y avait quand même une pression, mais finalement, eux, ils ont su assumer. Cette avance, cette assise, on va dire, là où Salah, c'est encore complètement... on sacralise beaucoup de choses, on cristallise beaucoup de choses sur Salah dans cette équipe de l'Égypte, mais c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe. Et pour le coup, je trouve qu'il s'est effondré. Son tir au but, c'était triste, en fait, de le voir le mettre dans les tribunes. Donc moi, je pense, pour répondre à ta question, Gilles, que c'est de très bon augure pour la Coupe du Monde. Après, je pense qu'il va falloir rester sérieux. Puis, il ne faut pas non plus oublier que le Sénégal a de très grandes qualités offensives, mais ce n'est pas toujours facile de les mettre dans le fond du filet, quoi. C'est vrai qu'on l'a bien vu pendant la CAN, pendant les matchs de poule, on a douté beaucoup. Quand même, de leur qualité offensive, en tout cas du côté concret. Sur la fin des matchs, c'était plus encourageant, mais en finale, on a bien vu que c'était compliqué. Après, on a vu que c'est peut-être aussi parce que c'est l'Égypte, mais il va falloir faire attention à ça quand même à la Coupe du Monde. C'est que défensivement, ils sont costauds, mais offensivement, ils ont des très beaux noms sur le papier, mais c'est pas toujours évident pour eux de trouver la solution. On reste confiant parce que c'est une très belle génération et encore une fois, beaucoup de complémentarité et un beau collectif, mais ça reste quand même la Coupe du Monde. Donc, ce sera intéressant de voir après les tirages au sort pour les groupes.
On se souvient, en 2018, ils sont sortis quand même parce qu'ils avaient un carton jaune de plus que le Japon. Ou tirage au sort, je ne me souviens même plus exactement. Je crois que c'est le fair play qui a fait sortir le Sénégal de la Coupe du Monde. Là, ils arrivent en 2022, c'est l'année du Sénégal. 2022, ils remportent leur premier titre, leur nouveau stade est magnifique, ils se qualifient à la Coupe du Monde dans leur nouveau stade, je ne vois pas ce qui peut les arrêter, et en plus, ils seront dans le chapeau 3 eux aussi, donc ils auront un adversaire potentiellement jouable, et après, on verra pour chapeau 1 et 2, mais ils peuvent tomber contre le Qatar, par exemple, ils peuvent tomber contre un Portugal qui, eux, sont dans le chapeau 1, un Portugal qui n'est pas inspiré, une Angleterre qui s'endort un petit peu, et tu vois, et ça peut sortir facilement du groupe. Le Sénégal, je le vois bien pour la Coupe du Monde.
Bah, c'est prometteur ce que dit Samy Julie. Là, l'année du Sénégal, le Sénégal qui, au bénéfice d'un tirage au sort favorable, peut aller se qualifier pour les huitièmes. Bah, franchement, sur le papier, c'est faisable. Enfin, moi, j'ai quand même des doutes sur... je suis désolé, on en avait déjà parlé pendant la Coupe d'Afrique, mais sur le sélectionneur Aliou Cissé, qui a forcément un totem d'immunité. Il a remporté la CAN, c'est normal. Mais j'ai l'impression parfois que, l'équipe du Sénégal a une bonne assise défensive, mais ça reste quand même assez frileux sur le plan tactique. Et des fois, on l'a vu sur certains matchs de la CAN, Aliou Cissé, en tant que sélectionneur, n'a pas forcément les bonnes solutions d'un point de vue tactique pour changer le visage de son équipe. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Julie.
Non, je ne suis pas forcément d'accord parce que justement, je trouve que pendant la CAN, il y a eu des changements. Alors, je vais pas savoir les noms exacts et je vais pas être très précise, mais je me souviens de 2-3 joueurs qui sont rentrés à la 70e ou à la 80e et qui ont été les marqueurs, les buteurs derrière. Donc, moi, justement, je trouve qu'on a été très sévère avec lui au début de la CAN. Et finalement, je trouve quand même que ce collectif, s'il y a une si bonne ambiance, c'est aussi par rapport à son charisme, quoi. Donc moi je suis plutôt confiante par rapport à ce sélectionneur, et je trouve que symboliquement, en plus pour l'histoire, c'est beau que ça soit lui, parce qu'il était là pour la génération 2002. C'est vrai que, pour revenir sur ça, Samy est beaucoup plus positif que moi, dans le sens où j'ai envie de rester humble et concentrée, quoi. Enfin, c'est pas moi qui suis sur le terrain, hein, mais pour eux, quoi. Je trouve que c'est sûr que c'est l'année du Sénégal, et ils nous ont montré des fantastiques scénarios, parce que même là, sur les barrages, enfin, même si nos nerfs, ils ont joué avec nos nerfs, quand à la fin, le dénouement, c'est la victoire, c'est magnifique. Et la finale, c'est la même chose. S'il y a eu autant de folie aussi dans les rues à Dakar, c'est parce que le scénario était juste fou, quoi. Donc là, pour ces barrages, c'était la même chose. Donc oui, c'est très encourageant. Et moi, la différence de toi, je n'ai plus envie d'être sévère avec le sélectionneur Aliou Cissé. Moi, je pense qu'il a su justement créer un collectif. Il a des très bons remplaçants sur le banc. Il y a un très bon banc. Chacun à son poste. Et du coup, en fonction de la physionomie du match, moi, je trouve qu'il sait justement inverser la tendance pour essayer de trouver des solutions.
Bon, voilà qui est dit. Bah, écoute... on espère un beau parcours du Sénégal, mais on sera très attentif du coup au tirage au sort, sur lequel on aura l'occasion d'échanger, bien sûr. Pour terminer sur ces qualifications de la zone Afrique, on va terminer sur des larmes de joie et à la fois des larmes de tristesse. C'est le seul qui n'aura pas le smile à la fin de l'année, malgré le soleil radieux de Doha et ses poussières sableuses qui viendront enivrer tous les supporters de football. Cette atmosphère particulière de Coupe du Monde, il ne la connaîtra pas. Bonsoir, c'est Benchek.
Ah, quel salaud. Ouais, bonsoir. Effectivement, c'est un choc. Hein. C'est un choc, pas un choc parce que l'Algérie s'attendait à battre le Cameroun facilement ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est un choc après... la physionomie des deux matchs. C'est-à-dire que tu as un match chanceux au match aller où tu as une tactique qui est complètement différente de celle que tu as d'habitude, c'est-à-dire tu bétonnes. Béton relance en chandelle au bout de... dès le début du match. Tu souffres les 20 premières minutes et après le match s'équilibre et puis tu marques un but et tu verrouilles et puis tu sors avec une victoire du Cameroun alors qu'ils n'avaient pas perdu chez eux depuis 98 et qu'ils n'avaient jamais perdu en match officiel contre l'Algérie. Tu fais 50% du chemin et au match retour, c'est n'importe quoi. Tu prends un but casquette avec un goal qui sort, on ne sait pas s'il y a faute, s'il n'y a pas faute, mais je ne veux pas revenir sur l'arbitrage parce que ce serait trop facile en fait. Et l'Algérie a plutôt dominé. Moi, je n'ai pas compris la tactique des Camerounais sur ce match retour, dans le sens où ils avaient, à partir du moment où ils ont marqué leur but, bah, ils étaient attentistes, en fait. Ils étaient là. Et s'ils avaient un contre, ils le jouaient. Ils essayaient de le mener à bien, mais sans conviction. Et puis, ils ont accepté de subir. Donc peut-être qu'ils se disaient on va aller en prolongation, au tir au but, c'était ça le but, je sais pas. Peut-être qu'ils pouvaient pas, tout simplement, faire plus. En tout cas, ils ont tenu jusqu'à la prolongation. Et puis le scénario, après, voilà, le scénario est cruel, mais c'est le football. Il est cruel quand on regarde ça de façon macro, quoi. Mais si on s'intéresse un peu plus, on revoit le match tranquillement, et surtout l'action qui mène à ce deuxième but camerounais qui plie complètement la qualification, on voit qu'il y a, qu'il y avait pas mal de choses à éviter. Donc c'est cruel, l'avenir de l'Algérie pour l'instant ne s'annonce pas radieux et ça sera difficile en novembre prochain.
Le malheur de Samy qui fait le bonheur de Christian, comment est-ce que tu as vécu cet ascenseur émotionnel?
Bon, ça a été une soirée complètement folle. Pour se remettre dans le contexte, il faut se rappeler que dans le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, à l'issue de la CAN, on a quand même terminé troisième d'une CAN à domicile. Il décide de limoger le sélectionneur pour installer Rigobert Song Bahanak, ancien capitaine de la sélection. Alors il y a eu beaucoup de pression de part et d'autre, de la part du peuple notamment, pour avoir la tête du sélectionneur, notamment après cette séance au tir au but calamiteuse contre l'Égypte. Mais c'était également un gros risque que moi personnellement je n'ai pas trop compris parce que si peu de temps avant une échéance aussi importante qu'un match de barrage contre une équipe solide comme l'Algérie, renvoyer le sélectionneur pour en installer un qui ne va pas nécessairement avoir le temps de mettre en place sa philosophie de jeu. Un sélectionneur dont on ne connaît pas tellement les qualités, les capacités, les caractéristiques, puisque c'est son premier poste à Rigobert Song. Donc, pour moi, on arrive avec beaucoup d'incertitudes. Le match aller, on est dominant pendant, comme Samy l'a dit, à peu près 20 minutes. Et puis après, ça s'équilibre. L'Algérie très solide en défense, qui marque un but sur coup de pied arrêté. Et après cette défaite à la maison, alors personnellement, j'étais assez pessimiste. Parce qu'on se dit, perdre 1-0 à la maison sans inscrire de but, on a encaissé un but à l'extérieur. Aller gagner en Algérie, ça ne va pas être évident. Et puis au final, je suis d'accord avec la description que Samy a faite du match. Hein. On a marqué très rapidement, ça a été notre chance. But de Choupo-Moting, qui était blacklisté par l'ancien sélectionneur. C'est un bon petit pied de nez de sa part. Et puis, on a été très, très attentiste. Je dirais même qu'à partir d'à peu près la 65e, 70e minute de jeu, on a carrément rien foutu, clairement. Et je pense qu'on attendait juste les tirs au but, quoi. Et au tout dernier moment, le but algérien nous crucifie. Et puis, on a eu un de ces moments que seul le football peut nous offrir. But de Karl Toko Ekambi, dans les arrêts de jeu à la 124e minute, c'était tout simplement magique.
Je pense même que c'est l'action que le Cameroun a joué avec le plus d'envie, au fait. La dernière action, j'ai l'impression que c'est la meilleure action du Cameroun sur les deux matchs, au fait.
Mais c'est ce que je te disais aussi pendant la CAN, c'est que le Cameroun, c'est une équipe formidable. Alors eux, il faut qu'ils soient dos au mur pour commencer à montrer quelque chose. Ils ne peuvent pas te faire un match tranquille où ils font le travail du début à la fin. Non, c'est quand... Ils aiment bien jouer avec notre tension, en fait. Il faut que ça monte, ça descende, etc. Et on a réussi à marquer, à gagner. C'était un moment vraiment magique. Hein. C'était le feu toute la soirée au Cameroun. J'ai quand même été marqué par l'image. Ça fait mal, l'image de Belmadi à genoux, en larmes au stade, là. C'était une image assez forte, j'ai trouvé. Maintenant, pour revenir aussi sur ce que tu disais... Gilles, concernant ce qu'on peut attendre des équipes au Qatar, alors le Cameroun, je le dis tout de suite, hein, on est distributeur officiel de points. Hein, tout le monde va venir prendre ses 3 points contre nous. Mais plus sérieusement, je ne suis pas très optimiste. Alors, on le sait, nous, les Camerounais, depuis la fin de la génération Boma, Eto'o, Rigobert Song et compagnie, on a des effectifs plutôt faibles, plutôt en deçà de ce qu'on a connu. Et je ne m'attends pas, et je pense que les Camerounais ne s'attendent pas à traverser les poules, même à la faveur d'un éventuel tirage au sort favorable. Sur l'ensemble des équipes africaines comme vous, je pense que celle sur laquelle on peut mettre une pièce, c'est le Sénégal. Mais on verra bien.
Samy,
non, mais après, ce sera trop long sur la Coupe du Monde. Faut pas oublier que c'est vraiment une Coupe du Monde spéciale. C'est pas en été. On arrivera à une période où, quand je pense aux équipes du Maghreb, par exemple, ils ont des joueurs qui jouent au Qatar déjà. Ils ont des joueurs qui jouent en Asie aussi, dans la péninsule arabique, aux Émirats, etc. Ça sera un énorme avantage pour eux, parce que là-bas, ça sera déjà, les championnats vont déjà s'arrêter en avance par rapport aux championnats européens, où on rappelle qu'il va y avoir à peine 10 jours, même pas, hein, peut-être une semaine entre la fin des derniers matchs des championnats européens et le début de la Coupe du Monde. Là, ça sera difficile, mais je pense qu'il y a une grosse carte à jouer pour des équipes asiatiques et éventuellement des équipes africaines.
Samy, je voudrais quand même te poser une dernière question sur l'Algérie. L'Algérie a connu une génération de joueurs exceptionnels qui a marqué l'histoire du continent africain depuis la Coupe du Monde 2014 jusqu'au sacre de 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations, je dirais. Mais c'est une génération qui devient assez vieillissante et qui a, à mon sens, qui n'a pas respecté son football habituel depuis la dernière CAN. Est-ce que c'est une page qui se tourne pour le football algérien selon toi ?
On va voir dans les semaines à venir comment. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Belmadi part, et c'est pas encore fait, hein. Il l'a dit en conférence de presse, il est resté encore assez flou là-dessus. Il va y avoir une période d'instabilité, il va y avoir des joueurs qui vont partir, beaucoup de joueurs qui arrivent à plus de la trentaine, qui sont en fin de carrière, quoi, internationale en tout cas. L'avenir ne se présente pas bien. Je pense que quand Belmadi a signé juste après la Coupe du Monde de 2018, l'Algérie était au fond du trou. Dans une grosse, après trois entraîneurs en un an, plus gagné de matchs depuis je ne sais combien de temps. Et voilà, entre les deux Coupes du Monde, ils sont montés très haut et ils sont redescendus très bas. Et on revient à zéro, en fait. Donc, on revient à zéro avec quelques jeunes joueurs qui ont à la fois gagné la Coupe d'Afrique et qui ont connu ces galères-là, mais il n'y a pas vraiment d'ossature. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, les temps sont très difficiles et l'avenir n'est pas radieux.
Merci Samy, ça sera le mot de la fin. On remercie toutes les personnes qui étaient présentes pour ce podcast, Saïb Enchek, Julie Dutertre, Mehdi Frigy, Christian Yudjeu et Momo. Merci tout le monde. On se retrouve très bientôt pour débriefer bien sûr le tirage au sort de cette Coupe du Monde. On referme ce podcast, retrouvez-nous chaque semaine dans Parlons Sport en audio sur les réseaux sociaux et à la radio.